de la foi en Christ, de notre relation directe, personnelle avec Dieu, un peu différent. Une chose que même certains sociologues ne vont pas contester, c'est le caractère transformateur que la foi en Christ, que la relation directe avec Dieu provoque dans la vie de tous ceux qui ont une relation avec Dieu et avec le Christ. Et quand quelque chose est réellement transformé, cela finit toujours par se voir. Un changement authentique laisse forcément des traces, à l'intérieur comme à l'extérieur. On ne reste pas identique à ce qu'on était avant. Et c'est exactement ce que Paul explique dans sa lettre aux Colossiens, chapitre 3. Et jusqu'au verset 11, Paul parle de la conversion. C'est quoi la conversion? Ce que Dieu a fait en nous donnant une vie nouvelle. Mais à partir du verset 12, Paul va changer d'angle. Il passe de l'intérieur, notre conversion, vers l'extérieur et il montre concrètement ce à quoi ressemble une vie transformée. Autrement dit, si Dieu a réellement changé notre cœur, soit doit se voir dans la manière de vivre, dans nos attitudes, dans nos relations, dans notre vie quotidienne. Et dès lors, une question s'impose. À quoi reconnaît-on une vie transformée? Écoutons donc la réponse de Paul dans le chapitre 3 de Colossiens à partir du verset 12. Et Paul dit, « Ainsi, puisque Dieu vous a choisi pour faire partie du peuple saint et qui vous aime, revêtez-vous d'ardente bonté, de bienveillance, d'humilité, de douceur, de patience, supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a quelque chose à reprocher à un autre, pardonnez-vous mutuellement. Le Seigneur vous a pardonné. Vous aussi, pardonnez-vous de la même manière. Et par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien par excellence. » Et là, le verset 15, merci. « Que la paix instaurée par Christ gouverne vos décisions. Car c'est à cette paix que Dieu vous a appelé pour former un seul corps. Soyez reconnaissant que la parole de Christ réside au milieu de vous dans toute sa richesse, qu'elle vous inspire à une pleine sagesse pour vous instruire et vous avertir les uns les autres ou pour chanter à Dieu de tout votre cœur des psaumes, des hymnes, des cantiques inspirés par l'Esprit afin d'exprimer votre reconnaissance à Dieu. Et dans tout ce que vous pouvez dire ou faire, agissez au nom du Seigneur Jésus en remerciant Dieu, le Père, par lui. » À la lecture de ce texte, une chose apparaît clairement. Paul ne nous donne pas une simple morale, loin de là. Il ne présente pas une liste des règles pour fabriquer, entre guillemets, des bons chrétiens. D'ailleurs, la Bible n'a pas été donnée pour ça. Le moralisme, en fait, consiste à bien se comporter pour soi-même, pour être vu, pour se valoriser, pour mériter quelque chose. Mais ici, Paul parle d'une autre chose, une vie réellement transformée par Dieu. Et une telle vie ne cherche plus sa propre gloire. Elle cherche la gloire de Dieu. Et cela change absolument tout. Car cette vie entre alors dans un processus qu'on appelle de sanctification, une vie en mouvement, une vie en transformation continue. Et figurez-vous, être chrétien, ça veut dire n'être jamais prêt. Nous sommes toujours en transformation. Du coup, pas besoin de nous ajouter de poids sur nos dos. je ne suis pas parfait, je ne suis pas parfait, j'arrive pas. Oui, nous ne sommes pas parfaits, nous ne nous arrivons pas. Nous sommes transformés petit à petit jusqu'au jour du retour du Christ en gloire. Et dans ce passage, Paul effectivement nous montre trois marques très concrètes dans une vie transformée. Trois signes d'une existence qui avance toujours vers cette transformation, vers la sanctification. Et la première marque, il s'agit du choix de Dieu. Selon la première partie du verset 12. Et en parlant du choix de Dieu, en fait, nous éprouvons tous une certaine fierté devant le bon choix que nous avons fait dans notre vie. Et ça, ce n'est pas un péché. Nous sommes fiers d'avoir choisi un bon travail, un lieu de vie, une bonne église. Et pourtant, le choix le plus décisif de notre existence ne vient pas de nous-mêmes. C'est lui qui a bouleversé non seulement notre trajectoire sur cette terre, mais aussi notre destinée éternelle, a été posé en dehors de nous-mêmes, avant même que nous en ayons conscience. Et dès l'ouverture de ce passage, Paul va affirmer une vérité fondamentale pour nous tous. Même la sanctification, même cette marche progressive vers une vie qui honore Dieu, prend sa source en Dieu lui-même. C'est-à-dire que même notre sanctification, ce n'est pas le fruit de nos efforts. La vie chrétienne ne repose donc pas sur une performance humaine dont nous pourrions nous glorifier. Regardez combien je suis spirituel. Ça n'existe pas. Nous pouvons nous engager dans la sanctification justement parce que Dieu nous a d'abord choisis. Et ce choix n'a pas été motivé par une qualité particulière en nous, ni par des vertus préexistantes qui auraient attiré sa faveur. Bon, je vais choisir Mathieu parce que je sais qu'un jour il va croire en mon nom. Bon, s'il va croire en mon nom, autant le choisir dès maintenant. Non, ce n'est pas pour ça. Ou sinon, je vais choisir Jean-Philbert parce qu'il est toujours beau. Oui, Jean-Philbert est toujours beau. Mais ça, ce n'est pas une raison pour laquelle Dieu l'a choisi. Or, Dieu nous a choisis en Christ avant toute œuvre de notre part. Et ce choix, il est centré sur Christ. Et on vient de chanter. Jésus soit le centre. Ce n'est pas par hasard qu'on chante ce cantique. C'est justement en union avec Christ que nous sommes élus, appelés et sanctifiés. Ainsi, la sainteté n'est pas une conquête individuelle, mais elle est la conséquence d'une appartenance. Nous appartenons au Seigneur. Ce n'est pas parce que nous avons notre nom sur la liste des membres d'une église. Nous sommes saints parce que Dieu nous a mis à part pour lui. Et lorsque Dieu nous intègre à son peuple, il inscrit notre sanctification dans cette dynamique de vie que nous vivons en communion les uns avec les autres. Nous sommes tous sanctifiés individuellement en Christ, mais la sanctification, elle ne peut être vécue qu'en communion avec les autres. Elle ne peut donc pas être réduite à une expérience intérieure ou même mystique détachée du réel. On n'est pas chrétien, mais je sentis l'amour de Dieu, donc je vais me cacher dans une montagne pour expérimenter cette présence de Dieu. Et je suis tellement saint que je vais même me détacher du monde, je vais même oublier tout ce qui se passe autour de moi pour vivre cette présence du Christ avec moi tout seul. Ça, ce n'est pas du christianisme. La vie avec le Christ se manifeste concrètement dans nos relations, dans l'amour du prochain, dans les actes visibles qui reflètent la gloire de Dieu. Et la vie chrétienne n'est pas une simple contemplation des incarnés, mais une existence profondément incarnée dans la vie réelle, concrète, orientée vers l'action. Cette action, toujours tournée vers la gloire de Dieu, constitue précisément ce que la Bible appelle la sanctification. Au lieu de dire « Ah, il est tellement saint qu'il a voulu se retirer du monde », Paul va dire justement le contraire. Il est tellement saint qu'il s'est inscrit dans la misère du monde pour montrer la gloire de Dieu. Si Dieu nous a choisis et s'il nous a placés dans son peuple, cela signifie qu'il est à la fois l'origine et même le but de notre sanctification, de notre vie. Et ce choix n'est pas arbitraire. Il est enraciné dans l'amour de Dieu. Et marcher dans la sanctification devient alors le signe visible de cette réalité invisible. Nous avons été choisis en Christ. Ça ne se voit pas. On ne peut pas voir ce choix de Dieu pour nous. Hein? Mais ce choix, il est inséparable de l'amour de Dieu. Et Dieu ne choisit pas par contrainte. Dieu nous a choisis par amour. Pourquoi? Parce que Dieu est amour en lui-même. Le Père aime le Fils dans la communion de l'Esprit Saint. Et cet amour trinitaire a débordé et déborde toujours vers nous. Cet amour divin est la source de notre élection en Christ. Il définit entièrement notre identité. Nous ne nous appartenons plus. Ou comme Paul dirait aux Galates, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ vit en moi. Dès lors, vivre pour soi-même devient une contradiction avec notre nouvelle nature en Christ. Être choisi par Dieu implique de vivre pour la gloire et pour le bien des autres. Et cela remet profondément en question une idée très répandue. Celle selon laquelle le but de la vie serait la recherche du bonheur personnel. L'Écriture ne présente jamais le bonheur comme une finalité ultime de l'existence humaine. Lorsque l'homme fait de son propre bonheur le centre de sa vie, il se substitue à Dieu comme finalité. Et cette inversion détruit la logique de la vie communautaire et vide, épuise de sens le choix souverain de Dieu. Mais, attention, loin de produire une vie austère, ou toujours sérieuse, ou même vide, la conscience d'être aimé par Dieu engendre une joie profonde et durable. Pourquoi? Parce que Dieu est toujours là. On cherche sa face et Dieu est toujours là. Alors que si on cherche le bonheur, un jour on pense avoir eu le bonheur et le lendemain. Voyez, ça vide de sens notre existence. Et voilà pourquoi nous éprouvons une joie, parce que Dieu est toujours là. Dans les mauvais jours, dans les bons jours, dans les mauvaises circonstances, dans les bonnes circonstances, Dieu est toujours là. Être aimé par le Créateur de l'univers, dépassant finement toute quête de bonheur autonome. Et en cherchant la gloire de Dieu, nous entrons dans l'ordre même pour lequel nous avons été créés. Un ordre où l'origine, c'est-à-dire le choix aimant de Dieu pour nous, et la finalité, l'appartenance à son peuple, s'harmonisent parfaitement. L'origine et but. Et voilà pourquoi notre vie, elle est pleine de sens en Dieu et en Christ. Nous savons quelle est l'origine et quel est le but de notre vie. Même si entre les deux, on éprouve des bons jours, des mauvais jours. Nous sommes sûrs de l'origine et du but. Ainsi, le bonheur n'est plus un objectif à poursuivre, mais une réalité qui découle de notre relation directe avec Dieu. Notre joie ne dépend plus de nos réussites ou de nos efforts, mais la joie de notre vie ne dépend que de la fidélité et de l'amour du Seigneur pour nous. Et voici donc la première marque d'une vie transformée. Dieu lui-même en est la source et le but. Nous sommes aimés de Dieu. Le Créateur et le soutien de toutes choses nous a choisis. Non à cause de ce que nous sommes, mais grâce à qui il est. Grâce à son amour. Et cet amour nous conduit à une vie de joie, enracinée dans la sanctification et toujours orientée vers notre bonheur, non, mais vers sa gloire. Nous avons encore une deuxième marque de la transformation que nous avons eu en Christ. Il s'agit des habits de Jésus sur nous, selon le verset 12 au verset 15. Hein? Par exemple, lorsqu'un vêtement devient usé, hein? Il faut le remplacer. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il ne remplit plus correctement sa fonction. Hein? Quoique aujourd'hui, il y a la mode d'acheter déjà des habits usés. Et c'est là que je crois que je deviens un peu âgé. Je regarde la mode d'aujourd'hui. Enfin, mais c'est quoi ça? Alors que mes parents disaient ça, c'est quoi cette mode? Et dans ma tête, je me dis, ah mais au moins, je ne me trimballais pas comme quelqu'un qui n'a pas d'habit. Mais il a toujours une excuse. Hein? Et les jeunes d'aujourd'hui, lorsqu'ils auront notre âge, ils diront la même chose de la mode d'ici 20, 30 ans. Mais bon, quoi que ce soit, hein, si le vêtement est usé, on le remplace, il ne remplit plus sa fonction. Et on ne se contente pas de l'enlever. Il faut en revêtir un autre. Sinon, on se trouve nu, exposé et même vulnérable. Voilà la logique de enlever et revêtir. Et Paul explique ici cette logique spirituelle en fait. Après avoir dépouillé l'ancien homme, il nous faut revêtir des traits du nouvel homme que Dieu produit en nous par sa grâce. Et la conversion n'est pas seulement un changement intérieur, invisible et abstrait. La conversion inaugure une nouvelle manière de vivre qui touche toute notre existence. Dieu nous a choisis pour la sainteté et cette sainteté se manifeste concrètement dans notre manière de penser, de parler et d'agir dans la vie quotidienne. La spiritualité biblique n'est jamais enfermée dans une sorte d'invisibilité. Ah, je cherche une vie spirituelle, donc je me contente de contempler. Non. Il faut toujours une action. Elle commence dans la relation vivante avec Dieu, mais elle se vérifie nécessairement dans nos relations avec les autres. Le chrétien ne peut pas prétendre aimer Dieu verticalement s'il refuse d'aimer son prochain horizontalement. Paul commence donc par la bonté profonde, cette compassion intérieure qui nous rend sensibles à la détresse d'autrui et qui se traduit en service concret. Il parle ensuite de l'humilité. Et l'humilité chrétienne n'est pas le mépris de soi, hein, ni une forme d'autocondamnation. Ah, je suis un misérable. Ah oui, vous voyez combien il est humble. Non, c'est pas ça. Hein? Elle consiste donc à reconnaître que l'autre n'est pas inférieur à moi. Hein? Et qu'il ne doit pas être considéré, hein? Il doit être considéré avec honneur dans une attitude qui cherche son bien, tout comme le mien. Le problème est lorsqu'on se prend pour Dieu et on pense avoir tous les droits aux dépens des autres. sauf que tous vont faire la même chose. Et voilà les guerres, les conflits et tout le reste. Puis après, Paul parle de la douceur. Mais dans le langage biblique, la douceur n'est pas une faiblesse. Hein? En fait, la douceur, nous avons déjà vu ça dans nos études du sermon sur la montagne, le terme employé par Matthieu, douceur, ça veut dire une force sous contrôle. C'est-à-dire que la douceur, être doux, n'est pas une faiblesse. Quelqu'un de doux a su maîtriser sa force. Voilà, c'est une force maîtrisée, une puissance soumise à Dieu. La Bible ne nie pas notre puissance. L'être humain qui a cette puissance, cette volonté d'avancer, la Bible ne va jamais nier ça. Il faut juste la maîtriser ou la soumettre sous l'autorité du Seigneur. Et cette force maîtrisée ou être doux va renoncer à dominer, on va renoncer à écraser, on va renoncer à intimider pour utiliser notre force pour servir. Et voilà une force bien appliquée, on sert. Paul va ajouter aussi de la patience ou, selon certaines traductions, la longanimité. Hein? Et cela signifie supporter longtemps, hein? Sans céder immédiatement à l'irritation ou à la vengeance. Hein? L'apôtre sait que la vie communautaire confronte inévitablement des caractères différents. Hein? Des lenteurs, des vitesses différentes. Certains veulent avancer plus vite et les autres, non, c'est trop vite pour moi, on va réduire un peu, un ralentissant et ça peut créer des conflits. Hein? Et même des maladresses. Hein? Une parole mal exprimée qui va engendrer une mauvaise compréhension de l'autre part et voilà encore une fois le conflit. Ou sinon même des offenses. C'est pourquoi Paul appelle les croyants à se supporter les uns les autres et pas supporter dans l'autre sens. Oh, je vous supporte. Dans le sens de tolérer, ce n'est pas ça. Supporter dans le sens biblique, ça veut dire se mettre en bas pour servir d'appui. Ce n'est pas supporter. Ah, même en français, ça marche bien. Mais vous voyez, ce n'est pas tolérer, supporter dans le sens biblique. Je me mets volontairement en bas pour servir d'appui à mon frère qui est là, pour qu'il ne tombe pas. Sauf que dans l'Église, on se supporte les uns les autres. Donc, c'est-à-dire qu'on porte avec persévérance le poids réel des relations humaines. Et soyons franches et honnêtes. Là où il y a des êtres humains, c'est toujours agréable. Hein? Toujours bien. Non. Où il y a des êtres humains, il y a des différents. Différence d'opinion, d'avis, de méthode, de façon de penser. On ne va pas toujours aimer la façon de faire ou de penser de nos frères et sœurs. Ah, j'aurais aimé telle et telle chose. Certainement, c'est impossible de vivre en communauté et être bien 100% du temps. C'est pour ça que Paul fait appel au pardon. Si ça n'existait jamais, pourquoi aurions-nous besoin du pardon des autres, de pardonner et de demander pardon? Donc, Paul, il ne va pas montrer une église romantique. Non, il y a des problèmes. Comment les surmonter? Comment vivre avec? Hein? Et c'est pour ça que le pardon est indispensable, justement parce que les blessures sont inévitables. Nous devons pardonner comme Christ nous a pardonné, non parce que l'autre mérite. Ah, je ne le pardonne pas parce qu'il ne mérite pas. Ah, mais justement, personne ne mérite le pardon. On ne pardonne pas pour ça. Ah, il a bien mérité mon pardon. Mais non. Comme Christ nous a pardonné, or, est-ce que nous avons mérité le pardon de Dieu? Mais non. Or, si Paul nous demande de pardonner les autres comme Christ nous a aimés, je n'ai pas mérité le pardon de Dieu, donc je dois pardonner l'autre, même si l'autre ne mérite pas mon pardon. Voyez, c'est Christ la mesure, ce n'est pas notre sentiment. Donc voilà, en revanche, hein, la personne qui a été saisie par la grâce de Dieu, elle apprend à devenir elle-même miséricordieuse. Pourquoi? Si j'ai vraiment compris qui j'étais avant le Christ, qui je suis aujourd'hui en Christ, non, mais Seigneur, j'étais comme ça et tu m'as pardonné. Je connais mon cœur et il n'est pas beau. Toutes mes réactions, mes actions, mes intentions ne sont pas toujours bonnes. Et Seigneur, pourtant, tu m'as aimé. Tu m'as pardonné. Tu m'as transformé. Donc, si je me connais bien, je dois forcément voir combien l'amour de Dieu est grand pour moi. Et si je constate combien l'amour du Seigneur est grand pour moi, je dois offrir cette même compassion et cette même miséricorde. Parce que même la pire offense des autres envers moi, elle est plus petite que l'offense de mes péchés envers le Seigneur. Et Jésus, on ne va pas entrer, c'est une autre prédication, mais Jésus a donné un enseignement à travers une parabole, hein, de ceux qui devaient beaucoup, encore plus. Donc voilà, si on a vraiment compris la taille de l'amour et de la miséricorde de Dieu lorsque j'étais encore pécheur, je dois aussi offrir aux autres la miséricorde et cette compassion que j'ai reçue de Dieu, hein? Et enfin, Paul va placer l'amour au-dessus de tout. Et l'amour est le lien de la perfection, le ligament qui unit, qui harmonise toutes les autres vertus. Et sans l'amour, les autres qualités restent fragmentées ou même incomplètes. Et avec l'amour, elles trouvent leur cohésion, leur maturité et leur beauté spirituelle. L'amour ne remplace pas les autres vertus. Hein? L'amour les enveloppe, les ordonne et les accomplit. Cela signifie que tout ce que nous faisons ne vise pas à prouver que nous sommes meilleurs que les autres, ni à construire notre propre réputation morale. Nous sommes tous pécheurs. Nous sommes tous déchus. Et selon Paul aux Romains, nous sommes tous privés de la gloire de Dieu. Qu'est-ce que nous avons à prouver aux autres? Quelle réputation défendons-nous, après tout, si nous sommes tous pécheurs devant Dieu saint? Voyez, nous n'avons rien à prouver. Parce que nous sommes tous égaux. Devant le Seigneur, nous sommes tous des pécheurs. Aimés de Dieu, mais tous pécheurs. Du coup, nous n'avons rien à prouver. Hein? C'était, je crois, si je ne me trompe pas, John Wesley qui disait que ceux qui sont déjà déchus n'ont rien à prouver. Donc, voilà. Donc, Le but de notre vie n'est pas à construire cette réputation morale ou montrer notre spiritualité aux autres. Non. Le but ultime de la vie chrétienne est la gloire de Dieu. Nous ne vivons pas pour nous-mêmes. Nous vivons, nous venons de Dieu, nous appartenons à Dieu et nous retournons à Dieu. Voilà. Ainsi, la gloire de Dieu se manifeste dans la manière dont nous traitons nos frères, nos sœurs et même ceux qui ne partagent pas notre foi. Je suis toujours terrassé de voir, parfois, on voit dans les infos, dans la télé, ceux qui se disent chrétiens et qui vont maltraiter, qui vont offenser ou qui vont dire de mauvaises choses à d'autres qui ne sont pas chrétiens, qui ne partagent pas notre foi. Ce n'est pas un comportement que Christ nous a enseigné. Il est impossible de prétendre vivre une vie de prière intense tout en parlant durement aux autres, en répondant avec violence ou en nourrissant un esprit de mépris. La sanctification ne se mesure pas seulement à la piété visible, mais justement à la manière dont nous exerçons la bonté, l'humilité, la douceur, la patience dans les situations ordinaires et extraordinaires de la vie. Et de même, le chrétien ne peut pas rendre le mal pour le mal, ni entretenir un esprit de vengeance. Et Paul parle à une église qui était persécutée, à des chrétiens persécutés, par la société, par le gouvernement à l'époque. Le pardon chrétien est une déclaration concrète que la miséricorde de Dieu est plus forte que notre droit supposé de rendre coup pour coup. La profondeur du texte de Colossiens apparaît justement lorsque le pardon n'est pas seulement une attitude morale, mais il s'agit d'une conséquence directe de l'Évangile. C'est quoi le message de l'Évangile? Nous étions pécheurs, Dieu nous a aimés, il nous a réconciliés. Voilà. Si Dieu nous a pardonnés en Christ, alors nous sommes appelés à devenir des personnes qui pardonnent. Et si l'amour nous unit réellement, alors il nous rend capables de supporter les tensions sans rompre la communion. Et la vie communautaire est une vie des tensions. Il n'y a pas de vie en communion sans tension. Nous vivons en tension. Déjà, nous sommes pécheurs devant un Dieu saint. Il y a une tension. Nous sommes limités devant un Dieu illimité. Il y a une tension. Voyez? Et nous sommes tous différents. Si d'un côté nous sommes tous égaux, tous pécheurs, de l'autre côté nous sommes tous différents. Or, cela va forcément créer une tension. Appartenir à une église et croire que nous n'aurons jamais de tension, tout va toujours se bien passer, non. C'est romantiser le message de l'Évangile, alors que Jésus, ni Paul, ni Pierre n'ont jamais fait. Le chrétien transformé par le Seigneur ne doit pas laisser sortir de sa bouche des paroles grossières, dures ou brutales. Cela concerne toutes nos relations avec le conjoint, les parents, les enfants, les frères, les sœurs, les voisins, les collègues, salariés, responsables. Attention, il y a des discussions difficiles, ça oui. Mais manquer du respect avec l'autre ou rabaisser l'humanité de l'autre au nom d'avoir raison, ça nous ne pouvons pas faire. Une discussion difficile, ça existe, même la Bible ne cache pas le reproche que Paul a fait à Pierre et devant tout le monde. Ou la discussion entre Paul et Barnabas à cause de Jean-Marc. Paul a rétabli sa relation avec Jean-Marc. Mais il ne l'a plus jamais rétabli avec Barnabas. Vous voyez? De confusion comme ça. OK, mais jamais enlever l'humanité de l'autre. Manquer du respect. Ça, jamais. La sanctification touche le langage, les gestes, les réactions et l'attitude du cœur. Elle nous pousse aussi à agir pour le bien de l'autre. Non pas en le méprisant intérieurement, mais en le servant avec respect. On ne peut pas marcher dans la sanctification en gardant un cœur orgueilleux. C'est quoi un cœur orgueilleux? Quelqu'un qui se croit au-dessus de tout et de tous. D'ailleurs, orgueil, bibliquement parlant, ça veut dire littéralement se mettre en haut. Ce n'est pas par hasard que la Bible dit que le Dieu est le Dieu très haut. Comme si la Bible avertissait les êtres humains. Voyez, vous êtes orgueilleux, vous vous mettez en haut, mais le Seigneur, il est le très haut. Même si vous faites vos efforts pour vous mettre en haut, dû à la dureté de votre cœur, il y a un Seigneur qui est toujours, éternellement le très haut. C'est-à-dire que nos efforts sont inutiles. Même si nous voulons prendre la place de Dieu pour tout contrôler, nous n'arriverons jamais. Nos efforts sont voués à l'échec. La vie chrétienne se déploie dans l'humilité, sous la conduite d'une douceur, force maîtrisée, qui vient de Dieu et non de nos seules capacités naturelles. Cela n'efface pas les tensions, car nous rencontrerons toujours des personnes qui pensent autrement, réagissent autrement ou nous contrarient. Mais la patience nous appelle à ne pas répondre immédiatement dans la colère. La colère n'est pas un péché en soi. Mais ce que nous faisons de la colère, ça peut devenir un péché. Le sentiment colère, ça indique tout simplement que l'une de nos limites ont été affranchies. Et ça, ce n'est pas un péché. Mais notre réaction, nos paroles, nos actions en colère, ça oui, ça peut devenir un péché. Et il faut faire attention. Et dans ce temps d'attente, de patience ou de longanimité, c'est vraiment long, hein? Nous apprenons à nous porter les uns les autres et à nous pardonner. Voilà. Le pardon n'est pas instantané non plus. Voilà donc la patience. Hein? Et le pardon devient alors l'espace où la communion peut être restaurée, même après la blessure. Et lorsque cette dynamique devient réelle, la paix du Christ gouverne les cœurs et les relations. Attention, paix, encore une fois, ça ne va, cela ne veut pas dire une relation parfaite. Paix, bibliquement parlant, ça veut dire être en harmonie, pas être dans une perfection irréelle. Nous sommes en harmonie dans nos différences. OK? Et finalement, nous avons la troisième marque d'une vie transformée. C'est la parole du Christ qui demeure en nous, selon le verset 16 et 17. Voilà. Lorsqu'on était à Montpellier, et ça commence aussi à Villers-Lobel, nous avons souvent des hôtes à la maison. Voilà mon ami Alexandre qui vient de Montpellier. Il y avait des affaires à traiter à Paris. Bon, puisque je suis là, bon, je peux passer une nuit avec... Mais bien sûr. Hein? Certains de nos hôtes, nos hôtes ou nos hôtes, cours de français. Oui, nos hôtes ou nos hôtes? Nos hôtes, ok, nos hôtes. Alors, les H aspirés. Hein? certains restent une nuit. D'autres restent plusieurs semaines. Hein, et parfois même plusieurs mois. Mais quoi qu'il arrive, tous nos hôtes finissent toujours par repartir. Leur présence était réelle, mais leur présence était chez nous temporaire. Pourquoi? Parce que, même si c'est de la famille, hein, ils ne font pas vraiment partie du foyer au sens plan du terme. Ils n'habitent pas. Même si c'est nos frères, nos parents qui viennent, qui venaient et tout, ils n'habitent pas là. Donc, mais à l'inverse, Paul affirme que la parole du Christ doit demeurer en nous. Et ce terme, il est très, très fort. Hein? La parole du Christ en nous, ce n'est pas un passage. Il s'agit d'une habitation permanente. Ce n'est pas, ah, la parole du Christ vient en nous, ah, mais je veux rester une semaine. Ok, je veux rester 35 ans, après je m'en vais. Non. Paul dit que la parole du Christ habite en nous. Elle fait partie de notre foyer. Ce n'est pas un hôte. C'est quelqu'un qui habite. La parole ne visite pas notre vie. La parole du Christ s'y installe. Elle devient constitutive même de notre nature. Et de la même manière qu'il est impossible d'ignorer quelqu'un qui vit chez nous, je ne peux pas ignorer Eduardo. Donc, on se croise souvent à la maison. Du coup, pourquoi? Parce que nous habitons. Et nous ne pouvons pas ignorer la parole du Christ qui habite en nous. Si elle est là, si elle est installée, c'est impossible de l'ignorer. Et cette habitation de la parole du Christ en nous implique nécessairement une transformation durable. Paul ne parle pas ici d'un idéal abstrait, mais il parle d'une réalité déjà engagée chez le croyant. Comme il a montré au début du chapitre, le chrétien est un être renouvelé. L'évangile a atteint le cœur, a transformé les affections, a réorienté la volonté, a redéfini les comportements. Ainsi, dire que la parole du Christ demeure en nous revient à dire que le Christ lui-même vit en nous. Ce n'est plus moi qui vis, mais Christ vit en moi. Et pas seulement le dimanche matin, pas seulement mardi et jeudi soir. Christ habite en nous le vendredi matin, lorsque nous prenons le RER pour aller à Paris. Il ne s'agit donc pas d'une simple maîtrise intellectuelle des Écritures. Mémoriser des versets, c'est toujours bien, hein, mémoriser les versets et tout. Mais le simple fait de mémoriser certains versets de la Bible ne fait pas de nous des chrétiens. Ou même faire des analyses du texte en grec, en hébreu, ça c'est très bien, moi le premier. Mais cela ne fait pas de nous des chrétiens. Il s'agit d'une communion vivante avec la personne du Christ révélée dans sa parole. Et c'est pour ça que nous l'étudions. C'est pour ça que nous la mémorisons. C'est pour ça que nous voyons comment ça a été écrit en hébreu, en grec. Parce qu'elle demeure en nous. Ce n'est pas pour faire qu'elle habite en nous ou pour montrer quelque chose de spécial. La parole n'est pas seulement un contenu. La parole du Christ est la médiation de la présence du Christ en nous. Et Paul ajoute en fait une précision là essentielle au milieu de vous. La parole du Christ ne demeure pas seulement dans l'individu. La parole du Christ, elle est là dans la communauté. La parole du Christ est ecclésiale par nature. L'Église devient le lieu où la parole habite, circule et agit. Cela rejoint justement la promesse de Jésus. Là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. La parole du Christ n'est pas périphérique à la vie de l'Église. Elle en est le centre, le fondement, la raison d'être. Ce matin, on serait venu à l'Église s'il n'avait pas eu la parole du Christ. On peut nous rencontrer en tant qu'amis et tout, mais notre relation va au-delà. Nous sommes amis. Mais puisque la parole du Christ habite en nous, nous sommes frères et sœurs. Cette présence communautaire de la parole produit des effets concrets. La parole du Christ engendre un processus d'édification mutuelle. En fait, c'est notre mission. Quelle est la mission de notre Église? Former des chrétiens mûrs, expérimentés. Hein? Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse. Ce n'est pas une tâche exclusivement pastorale. Paul dit à toute l'Église, instruisez-vous, avertissez-vous. Certes, l'une des choses très importantes du travail d'un pasteur d'une église, c'est l'enseignement. Mais Paul parle à toute l'Église, c'est une tâche communautaire. La parole habite la communauté. Mais l'Église se déploie aussi dans des relations interpersonnelles. Et l'effet, justement, elle est communautaire, ce n'est pas individuel. Nous sommes des individus transformés, mais communautairement, nous formons le corps du Christ. Parce que moi, tout seul, je ne suis pas le corps du Christ. Et cette dynamique révèle la transformation de notre être, notre intelligence. Hein? Les croyants renouvelés par l'Esprit deviennent capables de discerner, d'enseigner, d'exhorter selon la sagesse qui vient de Dieu. Et même le culte devient l'expression de cette habitation de la parole. Les cantiques, les louanges, les actions des grâces que nous faisons là, sont façonnés par la grâce de Dieu. Et le verset 17 en donne une sorte d'aboutissement. Quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus. La parole du Christ, lorsqu'elle habite richement, elle englobe toute la vie. Elle oriente non seulement nos pensées, mais aussi nos actions. Et voilà cette dynamique, notre dynamique communautaire qui se tourne vers la gloire de Dieu. On n'est pas là pour montrer combien on chante ou combien on pourra faire une très bonne présidence du culte pour montrer nos talents. On n'est pas là pour ça. C'est en nous donnant à l'Église que nous montrons la gloire de Dieu. Mon frère, ma sœur, cette prière m'a béni. Et pourtant, on n'est pas venu pour montrer qu'on prie merveilleusement bien. Non, ce n'est pas ça le but. Mais puisqu'on est venu pour rendre la gloire à Dieu, la prière qu'on fera peut bénir la vie de nos frères et sœurs. Il est impossible que la parole du Christ demeure en nous si nous ne nous engageons pas dans son étude. C'est pour ça qu'on fait des études bibliques. C'est pour ça qu'on médite. Hein? Il ne s'agit pas d'une lecture superficielle ou occasionnelle, mais il s'agit d'une démarche attentive, intentionnelle, persévérante, visant à comprendre en profondeur le sens des Écritures. C'est pour ça que nous étudions la parole de Dieu. La parole est le moyen ordinaire par lequel Dieu forme son peuple. La parole du Christ façonne l'Église, la structure, la fait croître. Ainsi, appartenir à l'Église ne se réduit pas à une affiliation formelle dans une association culturelle. Fréquenter un lieu, même figuré sur une liste, mais appartenir à l'Église implique de participer à cette réalité vivante où la parole du Christ fait sa demeure. aucun croyant n'est le dépositaire exclusif de la parole. Même pas le pasteur, mais d'autant moins le pasteur. La parole du Christ est que ne taire. Instruisez-vous, avertissez-vous. Elle est confiée à l'Église dans son ensemble. Et cela signifie que la vie chrétienne ne peut pas être vécue de manière isolée. La parole se comprend, se partage et s'incarne dans la communion des saints. Et voilà pourquoi l'Église doit accorder une place centrale à l'étude systématique et communautaire de la parole de Dieu. Cette étude ne vise pas seulement l'acquisition d'un savoir, mais la transformation de la vie. Et la connaissance biblique, son application communautaire, constitue le cœur même du ministère de l'Église. Quel a été le commandement de Jésus aux disciples avant de monter aux cieux? Apprends-leur ce que moi-même je vous ai appris. Nous avons un rôle pédagogique. Nous avons un rôle d'enseignant. Sans instruction biblique solide, l'édification mutuelle devient impossible. Comment s'exhorter avec sagesse si cette sagesse ne nous est pas donnée par la parole du Christ? En réalité, sans un enracinement profond dans la parole, toute la vie de l'Église s'appauvrit. Les visites perdent leur substance. La prière devient formelle, la louange vide de son contenu et le culte lui-même perd sa raison d'être. Pourquoi? Parce que le culte est fondamentalement une réponse de reconnaissance à Dieu. Et cette reconnaissance naît d'une connaissance vivante de sa parole. Et lorsque la parole du Christ habite en nous, toute notre vie devient une offrande rendue à Dieu, dont la joie pour la gloire de Dieu au nom du Christ. Et pour finir, l'une des marques visibles d'une vie transformée par l'Évangile est justement le désir croissant d'étudier, d'approfondir dans la parole du Christ. Ce désir n'est pas un accessoire de notre vie, il est le signe d'une vie spirituelle authentique. Mais cette connaissance ne doit pas rester théorique. Elle doit être mise en pratique, et c'est cette mise en pratique qui donne vie à toutes les expressions de la vie communautaire. La prière, la louange, le service, enfin, la parole du Christ produit en nous une disposition de la reconnaissance envers Dieu. Et voilà la transformation visible opérée en nous par l'Évangile. Une vie habitée par la parole, façonnée par la parole, et consacré à la gloire de Dieu. Prions. Et oui, Seigneur, comment te remercier pour ta parole? Dans notre limitation, dans nos péchés, dans nos résistances, tu t'es révélé à nous par ta parole. Merci, Seigneur. Parce que jusqu'à présent, tu nous parles par ta parole. Merci Seigneur par ton Esprit Saint qui nous a été donné, qui nous rend capables aussi, Seigneur, de la vivre. Seigneur, veuille nous remplir de ta parole. Pas pour montrer que nous avons une connaissance, mais justement, Seigneur, pour servir. Justement, Seigneur, pour te connaître davantage. En connaissant ta parole, Seigneur, nous pouvons mieux te prier. Nous pouvons mieux servir nos frères et sœurs. Et Seigneur, que ton nom soit toujours et toujours glorifié en nous, Seigneur, pour que nous montrions ta présence dans un monde qui a tant besoin. Loué sois-tu, béni sois-tu, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous invite encore à un moment où je cède la place à notre frère Jean-Philbert.